présente Une histoire des abeilles de Maya Lunde, traduit du norvégien par Lou Maël Besançon, lu par Caroline Tillette,
François Hatt et Vincent Ropion.
À Jesper, Jens et Linus. Tao. District 242. Shirong. Sichuan. 2098. Tels des oiseaux disproportionnés, nous nous tenions en équilibre chacune sur notre branche. Un bac en plastique dans une main, un plumeau dans l'autre. Je progressais lentement, avec le plus de précautions possible. Je n'avais aucune disposition pour l'escalade, contrairement à beaucoup d'autres femmes de l'équipe. Mes mouvements étaient souvent trop brusques, ma motricité fine pas assez développée, je manquais d'habileté. Je n'étais pas faite pour cette tâche. Et pourtant, chaque jour, je devais passer ici plus de 12 heures d'affilée. Les arbres avaient atteint leur maturité de production, mais étaient encore jeunes. Leurs branches, aussi fragiles que du verre, craquaient sous notre poids. Je grimpais avec prudence pour ne surtout rien abîmer. Je posais mon pied droit sur une branche plus élevée encore, puis hissais avec circonspection mon pied gauche. J'avais enfin trouvé une position sûre pour travailler. Inconfortable, mais stable. De là, je pouvais même atteindre les fleurs les plus hautes. Le petit récipient en plastique était rempli d'un or vaporeux, minutieusement pesé et distribué également à chacune d'entre nous tous les matins. Je plongeais le plumeau dans le bac et disséminais cette précieuse poudre autour de moi. Chaque fleur devait être pollinisée à l'aide de la balayette en plumes de poule, des poules de laboratoire conçues spécifiquement pour cet usage, car l'efficacité de leur plumage était supérieure à celle de n'importe quelle fibre artificielle. Une multitude de tests avaient été menés au fil du temps. Dans mon district, ce savoir-faire remontait à plus d'un siècle. Les abeilles avaient disparu dès les années 1980, bien avant l'effondrement, tuées par les insecticides. Quelques années plus tard, quand les substances en cause avaient cessé d'être utilisées, les abeilles étaient réapparues. Mais la pollinisation manuelle avait déjà commencé et fournissait de meilleurs résultats, même si elle requérait un nombre de personnes, de mains, incroyable, colossal. Ainsi, lorsque survint l'effondrement, mon district avait une longueur d'avance sur ses concurrents. Notre pays avait été le plus touché par les dégradations environnementales. Pionniers en matière de pollution, nous étions devenus pionniers en matière de pollinisation manuelle. Ce paradoxe nous sauva. J'avais beau m'étirer au maximum, la fleur demeurait hors de ma portée. J'étais à deux doigts d'abandonner, mais la crainte d'une sanction me poussa à persévérer. Un bac de pollen vidé trop vite pouvait nous valoir une retenue sur salaire, tout comme un bac encore trop plein après des heures de labeur. Notre travail était invisible. Quand à la fin de la journée, nous redescendions au sol, seules des croix rouges tracées à la craie sur le tronc des arbres, jusqu'à 40, idéalement, indiquaient où nous avions pollinisé. Il fallait attendre l'automne, quand les arbres ployaient sous les fruits, pour savoir qui avait bien œuvré. Mais souvent, nous avions déjà oublié qui était passé par là. Ce jour-là, on m'avait affecté à la parcelle 748. 748 sur combien? Je l'ignorais. Nous n'étions qu'un groupe parmi des centaines d'autres. Dans nos uniformes beiges, nous nous ressemblions toutes, comme les arbres. Et nous étions aussi proches les unes des autres que l'étaient les fleurs. Toujours en groupe, perchés sur les branches ou marchant le long des ornières lors des changements de vergers. La solitude, nous ne la trouvions qu'entre les murs de nos appartements exigus, à peine quelques heures par jour. Sinon, toute notre vie se déroulait à l'extérieur. Le silence régnait dans le champ. Il était interdit de parler en travaillant. Les seuls sons provenaient de nos déplacements prudents, de légers raclements de gorge, de quelques bâillements, du frottement du tissu de nos uniformes contre le bois, et parfois aussi de ce que nous avions appris à détester le craquement d'une branche qui, dans le pire des cas, se brise. Une branche cassée, c'était moins de fruits et un motif supplémentaire de retenue sur salaire. Hormis cela, on n'entendait que le vent soufflant dans les ramages, sur les fleurs, dans les herbes. Il venait du sud, de la forêt sombre et sauvage, au-delà des fleurs blanches des fruitiers encore dépourvus de feuilles. Dans quelques semaines seulement, cette forêt serait un mur de verdure luxuriante. Nous n'y mettions jamais les pieds. Nous n'avions aucune raison de nous y rendre. Toutefois, le bruit courait qu'on allait bientôt la raser, elle aussi, et la replanter d'arbres fruitiers. Une mouche passa près de moi en bourdonnant. Un spectacle exceptionnel. Les oiseaux aussi se faisaient rares, souffrant de la pénurie d'insectes, mourant de faim, comme tout le monde. Un bruit strident, et le calme vola en éclats. Le coup de sifflet en provenance du baraquement de la direction signalait la seconde et dernière pause de la journée. Je remarquai alors que j'avais la bouche sèche. Dans une synchronisation fluide et parfaite, nous commençâmes avec précaution à descendre des arbres. Les autres femmes bavardaient déjà. Cette cacophonie démarrait à l'instant même où elles se savaient autorisées à parler, comme si on avait appuyé sur un bouton. Concentrée sur mes mouvements, je gardais le silence pour atteindre le bassin cassé de branches. J'y parvins. Un pur coup de chance. Au sol, une gourde en métal, éraflée, était posée au pied du tronc. Je la saisis avec avidité. L'eau, tiède, avait un goût d'aluminium, ce qui me dissuada malgré ma soif d'en ingurgiter davantage. Vêtus de blanc, deux jeunes garçons du service de l'Economa distribuèrent sans tarder les boîtes recyclables qui contenaient le second repas de la journée. Je m'assis à l'écart contre un arbre et j'ouvris la mienne. Aujourd'hui, mélange de riz et de maïs. J'en avalai une cuillerée, un peu trop salée et assaisonnée de piment et de soja artificiel comme d'habitude. Cela faisait longtemps que je n'avais pas mangé de viande. Le fourrage, dont une grande partie requérait également une pollinisation manuelle, demandait trop de terres arables. Et les bêtes ne méritaient pas qu'on leur consacre tant de travail. La boîte fut vide avant que je sois rassasiée. J'allais la déposer dans le panier avec les autres. Puis je me mis à courir sur place, en dépit de ma fatigue. Mes jambes étaient ankylosées après ce temps passé dans les arbres. Parcouru de picotements, mon corps avait besoin d'exercice. Rien n'y fit. Je jetai un coup d'œil furtif autour de moi. Aucun représentant de la direction ne me regardait. Discrètement, je m'allongeai par terre pour étirer mon dos douloureux. Je fermai les yeux un instant, essayant de faire abstraction du bavardage des femmes. Je me concentrai plutôt sur les voix et leur modulation. Ce besoin de parler tout en même temps, d'où venait-il? Mes collègues travaillaient ici depuis leur enfance. Des heures et des heures à discuter en groupe, des conversations ayant pour sujet le plus petit dénominateur commun, où aucune question n'était jamais approfondie. Sauf peut-être quand la personne évoquée n'était pas là. Pour ma part, je préférais les discussions en tête-à-tête. Ou alors ma propre compagnie, surtout au travail. À la maison, j'avais Kuan, mon mari. Même si on ne pouvait pas dire que nos longues conversations constituaient le ciment de notre relation. Kuan vivait dans le moment présent. C'était un homme concret. Il n'avait pas soif d'apprendre. Il se contentait de ce que la vie lui offrait et n'aspirait à rien d'autre. Mais au creux de son épaule, je trouvais la paix. Et puis, nous avions Weiwen, notre fils de 3 ans. De lui, nous pouvions parler. Alors que je m'étais presque endormie, les bavardages qui m'avaient bercée s'interrompirent. Je me redressai. Mes collègues regardaient en direction de la route. Le cortège s'avançait vers nous en suivant les ornières. Les enfants n'avaient pas plus de 8 ans, et j'en reconnus plusieurs. Ils fréquentaient la même école que Weiwen. Vêtus de la même tenue de travail que nous, le même uniforme beige en synthétique, ils marchaient aussi vite que le leur permettait leurs petites jambes.